presenta tutti questi guai e si sa
c'est Guillaume, hein, et puis il y a peut-être des gens que je ne connais pas, soyez tous les bienvenus. Gabi, tu voudrais prier pour ce moment ? Christ est ressuscité. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Christ est ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 20. Ben justement, on va prendre 1 Corinthiens 15. Au moment de la scène, là, on a partagé le souvenir de la crucifixion, ce sacrifice volontaire de Christ. Alors je vais peut-être vous étonner, voire vous scandaliser, en vous affirmant que la crucifixion de Christ, c'est pas assez. Si c'était une condition nécessaire, elle n'était pas suffisante. La crucifixion, c'est pas assez, mais en plus, isolée de tout le reste de la passion, elle perd son sens. Il y a quatre éléments en relation avec Jésus-Christ qui sont critiques et essentiels pour nous, pour chacun des croyants. Le premier, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils, et c'est un merveilleux cadeau, nécessaire, mais lui non plus pas suffisant. Et ça s'est passé à Noël. Noël dont on retiendra quand même qu'on ne sait pas la date exacte. Hein. Le deuxième événement, c'est que Jésus a accepté de prendre sur lui tous nos péchés, d'être crucifié, de mourir, nécessaire, mais toujours pas suffisant. En fait, la crucifixion semble avoir donné moins de problèmes à Jésus que de devoir supporter nos péchés. Et c'est certainement nos péchés qui l'ont fait le plus souffrir. Le troisième événement, c'est la résurrection. Elle aussi est nécessaire, et surtout, elle nous permet de passer de l'espérance à la certitude. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus, son Fils. Ce sacrifice pour nous. Pour que nous puissions paraître devant lui purs. Puis enfin, un quatrième événement majeur qui ne fait pas de doute non plus, c'est le retour de Jésus en gloire. Nous l'attendons tous, vous l'attendez ? Oui. Et pour ces quatre événements, aucune certitude de date n'existe vraiment. Peut-être que Dieu, dans sa grande sagesse, n'a pas révélé ces dates, comme ça on ne fait pas de fixation sur une date. La date ne doit pas nous cacher l'essentiel, les événements eux-mêmes, qui sont don de Dieu. Et peut-être vous l'aurez déjà compris en ce jour de Pâques, je ne vais pas être original, je vais vous parler de ce que la parole de Dieu nous enseigne de la résurrection. Et j'aborderai six points importants qu'on retrouvera dans ce chapitre des Corinthiens. D'abord, l'authenticité de la résurrection, le pourquoi de la résurrection, le comment. Et puis la résurrection, quand et à quelles conditions ? Le fait que la résurrection subordonne le visible à l'invisible. Et puis les conséquences pour nous, la résurrection c'est une vie nouvelle. Alors on va commencer à lire 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Alors la résurrection, c'est un fait historique dûment validé. D'abord, toutes les précautions prises par les autorités pour empêcher toute supercherie en sont une preuve. Le tombeau était scellé, dûment gardé, et les ennemis de l'Église naissante n'ont jamais pu produire le corps du crucifié. Les nombreux témoignages concordants, pas seulement les 12 apôtres et les femmes, mais après les 500 disciples, et après eux tous, Saul de Tarse. Saul de Tarse qui à ce moment-là, à ce moment où, où Jésus s'est révélé à lui, était un ennemi de l'Église. Et puis, l'attitude des disciples avant la résurrection. Pas avant la résurrection, avant que Christ leur apparaisse. Ils étaient bien loin de forger des apparitions imaginaires. Ils ont eu beaucoup de peine à se laisser persuader d'un fait si extraordinaire. Jésus leur reprocha d'ailleurs vivement leur incrédulité. Et puis l'attitude de ces mêmes disciples après avoir vu Jésus et après les 40 jours qu'ils ont vécu avec le Christ avant qu'il ne remonte au ciel et avant qu'ils ne reçoivent eux le Saint-Esprit. Les voilà complètement transformés. Ils vont être capables d'aller jusqu'au martyr pour leur maître. Ils vont prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, alors qu'avant cette résurrection, ils se tairaient comme des lapins. Et puis, malgré une tentative de corruption, corruption de témoins, par les autorités, la vérité reste établie. Vous vous souvenez, c'est Matthieu qui nous relate, les sacrificateurs, après s'être rassemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Subordination de témoins. Et puis enfin, les historiens. Un historien contemporain qui est, je crois, professeur émérite d'une université américaine, professeur d'histoire ancienne, a dit « Si toutes les preuves sont examinées impartialement, d'après les règles de la recherche historique, il est juste de conclure que la tombe dans laquelle Jésus avait été enseveli était vraiment vide au matin du premier jour de Pâques. Aucune preuve contraire n'a été jusqu'à présent trouvée, que ce soit dans la littérature, dans l'épigraphie ou l'archéologie. » Alors ceci pour montrer que la résurrection est un fait établi. Alors, pourquoi cette résurrection? Alors, on continue dans les Corinthiens. si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, et s'il n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. L'incarnation, la passion, la résurrection sont intimement liées. Et la foi dans ces trois ensembles est la condition de notre salut. Alors, j'ai été un peu provocateur en vous disant que la crucifixion de Jésus ne suffisait pas, mais c'est vrai. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Alors, je ne reviens pas sur la naissance de Jésus. On sait qu'elle fut le point de départ nécessaire pour que l'ensemble des prophéties qui le concernent puissent se réaliser. Et c'est un don de Dieu pour nous. Le don de Christ est en quelque sorte un don double. Il a accepté de porter nos péchés et aussi d'en supporter les conséquences. Et les conséquences, vous savez, c'est la mort. Christ ne détient pas l'exclusivité du sacrifice. Au cours de l'histoire, beaucoup se sont sacrifiés pour d'autres. Certains pour leurs enfants, certains pour leurs amis, certains pour un idéal, ou peut-être plus prosaïquement, les soldats se sacrifient pour leur pays, leur patrie. Mais Christ est le seul, et c'est pas un homme ordinaire d'abord, mais c'est le seul qui, après sa mort, est ressuscité. La résurrection était indispensable pour nous, parce que la résurrection est la preuve de notre conversion, la preuve que le sacrifice de Jésus est accepté par Dieu, qu'il est suffisant pour nous ouvrir la voie du salut. C'est l'accord pour sa grâce. Avant notre conversion, nous étions tous comme Jésus quand il a accepté de porter nos péchés, inacceptables aux yeux de Dieu le Père. Et notre avenir était la mort et la perdition éternelle. La première étape pour la conversion, c'est la repentance. Nous devons mourir à notre ancienne nature comme Christ est mort. Et enfin vient l'acceptation du don de Jésus, sacrifié pour nous, et du Saint-Esprit qui nous régénère, qui nous fait renaître en nous transformant, comme Christ est ressuscité sous une forme nouvelle. En ressuscitant, Jésus nous ouvre la porte vers le salut. Il a été le premier, on peut le suivre. La résurrection valide donc l'accord de Dieu pour la grâce. Nous sommes justifiés par Jésus, pas par nous. Alors si on suit la lecture, on va reprendre au verset 35. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque membre, il donne un corps qui lui est propre. Et on saute quelques versets, on reprend au 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est pas une belle image ? Avant d'entrer un peu plus dans les détails, il faut constater que la résurrection de Jésus n'a rien à voir avec les autres résurrections dont il est fait mention dans la Bible ou dans les évangiles. En effet, tous les autres qui ont eu cette expérience de résurrection, il y en a plusieurs, ont simplement bénéficié d'une prolongation de leur vie physique. Et cette vie s'est poursuivie comme avant leur mort. Par contre, quand Jésus est ressuscité, il était de nature différente. Tellement différente que ses amis et les disciples qui l'ont bien connu ne l'ont pas tout d'abord reconnu. Par exemple, dans Luc, il nous est relaté qu'il a fallu qu'il mange un morceau de poisson grillé pour être reconnu et pour que les disciples constatent sa résurrection corporelle. Il a fallu qu'il leur montre ses mains et ses pieds, percés pour qu'ils le reconnaissent. Et cette différence est aussi importante pour nous. Après notre conversion, nous devenons des êtres spirituellement nouveaux, différents, même si on doit quand même traîner notre ancienne nature après nous. Et l'apôtre Paul fait un beau parallèle avec la semence et conclut que la vie naît de la mort, pas de naissance s'il n'y a pas d'état de mort préalable. Et puis, que la vie s'adapte au milieu, une semence ne se développe que quand elle tombe dans un biotope compatible. Elle se développera donc en fonction de son environnement, d'où elle se trouve. Et c'est certainement une vérité applicable à nos corps ressuscités. Et puis enfin, il y a une conservation d'identité. Une semence ne peut porter qu'une plante identique à celle qui l'a produite. Et ce point nous donne une certitude merveilleuse. Nous avons été ensevelis par lui, avec lui, par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, ainsi, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Ça, c'est dans Romains 6. Alors, si on continue les Corinthiens, à partir du verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où es-tu ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La mort est un préliminaire à la résurrection, mais c'est un mystère, nous ne mourrons pas tous. Et Paul dit aux Thessaloniciens, lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et là, il s'agit d'une exception, puisque la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Il faudra donc que le corruptible ait revêtu l'incorruptibilité. Et ce jour de la résurrection, c'est la victoire ultime sur la mort, pour nous les enfants de Dieu. La résurrection sonne la fin de la mort, la fin des souffrances, la fin des pleurs, la fin des deuils. Pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, par contre, vient la seconde mort, les pains de feu, lieu de souffrance, de regret, l'enfer. Et l'enfer pour l'éternité. Et bien pour ce quatrième événement, ce retour de Christ, la date non plus n'est pas connue. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Jean 20, 25. C'est Thomas. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous et ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. L'espérance de Thomas était uniquement dans ce qui est visible, présent, expérimentable, acceptable pour sa raison. Tant que Jésus était là, vivant, alors il était prêt à croire et à le suivre. Mais dès qu'il n'est plus visible, qu'il ne se manifeste plus de manière tangible, alors vient le doute, le blocage, le refus de ce que Dieu fait et dit. Alors si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans Thomas, si comme lui vous êtes de ceux qui font des grandes déclarations de foi, mais intérieurement vous n'avez pas d'assurance que Dieu va agir. Si comme Thomas, quand survient l'épreuve, quand Jésus vous semble absent, vous vous bloquez et refusez d'accepter ses promesses. Si, comme Thomas, votre acceptation des vérités bibliques est sélective et réduite à ce que vous jugez rationnellement acceptable, alors il est peut-être temps de faire un pas de plus, le pas de la foi. Ce pas qui inclut bien sûr nos compréhensions intellectuelles de tout ce qui est visible, notre raisonnement, mais qui nous mène plus loin et nous fait entrer dans le domaine du spirituel, de l'invisible. Hébreu 11, la foi, c'est sûr de ce qu'on est, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est d'être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi, d'une part, c'est un don de Dieu, elle est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas le résultat d'un effort, d'une recherche personnelle, mais d'autre part, elle est aussi le résultat d'un acte de notre volonté, qui fait le choix de répondre affirmativement à l'appel de Dieu, qui dit à Jésus « Oui, j'ai foi en toi, viens au secours de mon manque de foi. » Lorsque Jésus apparaît pour la deuxième fois dans le lieu où s'étaient réunis les disciples, Thomas est avec eux et Jésus s'adresse à lui, personnellement à lui. Il lui dit « Arrête de douter, mais aie foi en moi. » Cette confrontation avec Jésus sera décisive pour Thomas. Il professe sa foi, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la conversion, c'est le passage de la simple croyance à la foi. Et à cette occasion, Jésus dira « Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont foi en moi ». Dans mon cœur, soumettons le visible à l'invisible. Enfin, le dernier point, Romains 6, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Or, la mort et la résurrection de Christ permettent pour nous une double résurrection. La résurrection pour une vie future dans l'éternité, mais aussi la résurrection pour une vie nouvelle, maintenant, tout de suite. Vous qui étiez mort par vos offenses et l'incorcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes vos offenses. Et pour conclure, les conséquences personnelles de la résurrection. La résurrection de Christ était indispensable. Nous avons vu qu'elle est authentique. Elle nous permet de suivre Jésus dans ce passage de la mort vers la vie. On est libéré de l'esclavage du péché, de la tristesse de la mort, et nous accédons à la joie de la vie avec lui. Jésus nous ayant justifiés, nous les impurs, les injustes par nature. Et cela nous donne aussi une nouvelle responsabilité de partage de cette joie, de cette vie nouvelle. Alors je vous souhaite donc de bonnes fêtes de Pâques, une joyeuse résurrection avec Jésus-Christ, notre frère aîné. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Amen.
Je vous prépare une place au ciel avec vous, voire à deux, et que je vous apprendre cette semaine. Bon dimanche à tous.
Merci.